Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Ce vote est un très grand soulagement, réaction de l'adjoint à la maire de Paris, en charge notamment des droits humains, Jean-Luc Romero, après que l'Assemblée nationale a reconnu officiellement le génocide des Ouïghours. Entretien dans votre édition. L'association médicale franco-méditerranéenne organise une visioconférence demain à 14h autour des questions de santé au Maghreb et dans les territoires palestiniens. Principal sujet, la crise sanitaire liée au Covid. Nous écouterons le président de l'association, Nizar Badran. Les futurs bacheliers sont invités depuis hier à formuler leurs vœux d'orientation post-bac sur Parcoursup. Nous y reviendrons avec Cécile Thévenet, membre du Bureau national de la Fédération des associations générales étudiantes. Le Premier ministre français a annoncé hier soir la levée progressive dès le 2 février de restrictions destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Patrick Menucci, ancien député socialiste de Marseille, porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, extrait dans votre journal. La Coupe d'Afrique des Nations et la fin de l'aventure pour l'Algérie. Les Fennec, tenants du titre, ont été battus hier par la Côte d'Ivoire 3-1. L'Assemblée nationale reconnaît officiellement le génocide des Ouïghours, cette minorité musulmane persécutée en Chine. Une proposition de résolution des députés socialistes a été adoptée presque unanimement. C'est maintenant le rôle du gouvernement français et du président de la République de soutenir ce vote de la représentation nationale et de parler haut et fort, nous dit Jean-Luc Romero, adjoint de la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Jean-Luc Romero.
Ce vote est un très grand soulagement. Vous savez, récemment, la mairie de Paris, d'ailleurs, avait été une des quelques villes dans le monde qui avait décidé de se pavoiser aux couleurs des Ouïghours en inscrivant, bien sûr, Free Ouïghour sur sa façade. Nous sommes tous complètement effrayés, bouleversés de ce qui se passe et d'une partie de l'indifférence de la communauté internationale à ce drame qui est vécu. Et on a l'impression qu'on tire aucune leçon après les Tibétains qui continuent à être aussi persécutés là-bas. Maintenant, ce sont les Ouïghours, sans évoquer la situation évidemment d'autres provinces en Chine. Et donc il y a un moment où il faut réagir et il faut que la diplomatie s'affirme, il faut que l'Europe ait un langage extrêmement fort vis-à-vis de la Chine. La Chine ne peut pas rester toujours impunie des crimes qu'elle commet. On ne peut pas voir et se taire. Donc évidemment, cette résolution est extrêmement importante.
Il faut briser le silence, c'est le propos du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
Briser le silence, oui, c'est une première chose et c'est extrêmement important. Cette résolution qui rejoint quelques autres pays qui l'ont fait dans le monde est essentielle. Mais maintenant, évidemment qu'il faut aller plus loin, que la diplomatie française doit porter cette résolution. Je vous le dis, c'est pas parce que la Chine est un immense pays, nous aimons ce pays, mais en même temps, on ne peut accepter ce que les dirigeants sont en train de faire de ce pays. On le voit en plus avec de nouvelles restrictions aux libertés encore récemment. Et ce génocide des Ouïghours est inacceptable. C'est pour ça que nous sommes, en tout cas à Paris, à leur côté. Nous espérons bientôt ouvrir un centre culturel des Ouïghours. Nous n'avons pas encore le lieu aujourd'hui, mais nous nous battons pour le trouver très très rapidement. Il faut que les Français soient sensibilisés à ce qui se passe en Chine, et je le redis encore, au drame des Ouïghours, mais aussi au drame des Tibétains.
Oui, justement, qu'est-ce que cela change, cette reconnaissance officielle d'un génocide en cours vis-à-vis des Ouïghours? C'est une pression, notamment, vis-à-vis de la communauté internationale?
C'est une pression importante, surtout que la France fait partie des 5 membres permanents de l'ONU. Alors, quand un des 5 membres permanents de l'ONU vote une résolution comme celle-là, son Parlement, c'est-à-dire la représentation démocratique des Français, c'est quand même un signal. Et maintenant, c'est le rôle du gouvernement français, du président français, de soutenir ce vote de la représentation nationale et de parler haut et fort. Vous savez, la parole de la France, elle est importante dans le monde. Elle reste importante quand on est aussi représentatif que l'est la France à l'ONU. Eh bien, elle doit utiliser cette résolution pour que d'autres pays nous rejoignent et pour montrer à la Chine que tout n'est pas possible, on ne peut pas exterminer les gens, on ne peut pas se comporter comme ils le font depuis des décennies avec les Tibétains et depuis un certain nombre d'années avec les Ouïghours. C'est inacceptable. La force de la Chine ne peut pas tout expliquer. Il faut qu'on arrête d'avoir peur, parce que je pense que s'il y a une parole forte qui est portée par la communauté internationale, si bien d'autres pays nous rejoignent, eh bien les choses peuvent changer. Mais pour ça, il faut aussi que Emmanuel Macron porte cette parole qu'ont exprimé les députés et qui est quand même un signal extrêmement fort et très symbolique.
Les députés, notamment de la majorité présidentielle, et cela, c'est un bon signal?
Oui, c'est un bon signal. Bon, n'oublions pas que c'est une initiative quand même du PS, il faut quand même le rappeler, parce qu'on tape beaucoup sur le PS ces derniers temps, mais je trouve que ça honore Olivier Faure, ça honore sa candidate, Anne Hidalgo, que de se mobiliser sur cette question. C'est un signal, en tout cas dans cette unanimité, qu'il faut avoir autour de cette question. Parce que là, il y a pas de droite, il y a pas de gauche, c'est les droits humains qui ne sont pas respectés. La France, vous savez, c'est la patrie des droits de l'homme. C'est en France qu'a été adoptée la plupart des grandes déclarations de droits humains. Et donc, on a une responsabilité particulière en tant que Français. D'ailleurs, à Paris, on a aussi une responsabilité, puisque ces traités ont été souvent votés à Paris. On a une responsabilité particulière et on doit montrer le chemin. C'est l'honneur de notre Parlement. Je pense qu'on peut être fier d'être français quand on voit un Parlement français qui, face à cette Chine souvent arrogante aujourd'hui, à une ambassade de Chine en France qui se permet d'appeler, de menacer des élus, je crois que ce qui a été voté est un signal fort. En France, nous n'avons pas peur des menaces et nous ne pouvons accepter que des frères, des sœurs à l'autre bout du monde, en Asie, en Chine, soient aujourd'hui exterminés.
Jean-Luc Romero, adjoint de la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. La Chine s'est dite ce vendredi fermement opposée à cette résolution du Parlement français qui reconnaît donc officiellement le génocide des Ouïghours. 11 soldats de l'armée irakienne ont été tués dans l'est de l'Irak. C'est arrivé lors d'une attaque nocturne menée contre leur base dans la province de Diyala. Une attaque attribuée à des membres du groupe État islamique. Daesh qui a lancé hier un assaut contre une prison contrôlée par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Le groupe terroriste a libéré plusieurs détenus, c'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'association médicale franco-méditerranéenne organise une visioconférence demain à 14h autour des questions de santé au Maghreb et dans les territoires palestiniens. Principal sujet, la crise sanitaire liée au Covid. Le président de l'association, Nizar Badran.
La crise sanitaire, effectivement, ça nous a été quand même un problème qui nous a permis de développer un peu mieux le relationnel autrement que par présentiel, c'est-à-dire par Zoom ou par d'autres façons. Et c'est ainsi que nous invitons cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, les trois chefs de service de néphrologie de Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie.
Et donc cette année, vous allez évidemment faire un point sur la crise sanitaire dans les pays de la Méditerranée, avec notamment la situation en Palestine.
Voilà, tout à fait. Parmi d'autres, c'est la Palestine, bien sûr. La Palestine, ça nous a toujours été un objet d'études ou d'aide médicale important, vu la situation des territoires palestiniens sous occupation ou sous siège. L'année dernière, on était au début, si vous voulez, du vaccin, mais cette année, on est un peu plus loin. On a une certaine expérience et la situation en Palestine reste un peu précaire quand même, parce que les moyens matériels ne sont pas là pour pouvoir accéder au vaccin. Ensuite, les campagnes d'information, de sensibilisation ne sont pas, à mon avis, suffisantes pour à ce que les gens adhèrent facilement.
Et il y a la situation spécifique des réfugiés palestiniens au Liban.
Voilà, les réfugiés palestiniens au Liban, depuis très longtemps, font l'objet d'une certaine façon des politiques libanaises de discrimination, dans le sens où ils ne sont pas intégrés dans le système des professions de travail au Liban ou du système de santé. Donc ils ont leur propre système sanitaire qui dépend de l'ENROI, c'est-à-dire des Nations Unies. Le problème actuel à cause de Covid, c'est que les Palestiniens et les réfugiés en général, ils ont une certaine appréhension sécuritaire. Ils ont peur de se mettre sur les listes qu'on propose pour vacciner les gens. Donc il y a très peu de gens qui sont vaccinés. Le rapport qui va être publié samedi là par notre association, je crois qu'il y a 50 ou 60 000 personnes qui sont vaccinés sur l'ensemble des réfugiés palestiniens, qui sont à peu près 500 000. Hein. Et c'est encore pire la situation pour les Syriens, parce qu'il y a le problème d'insécurité qui pousse les gens à éviter justement d'aller et s'inscrire sur des listes où ils ne sont pas sûrs que ces listes-là soient sûres par rapport à eux. D'autre part, les moyens de l'Euro sont très limités. Les Nations Unies mettent à disposition un certain nombre de moyens, mais le volume des vaccins proposés et le nombre de centres de vaccination restent relativement limités par rapport à l'étendue de problèmes au Liban.
Le président de l'association médicale franco-méditerranéenne, Nizar Badran, si vous souhaitez assister à cette conférence en ligne, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de l'association. La Coupe d'Afrique des Nations est la fin de l'aventure pour l'Algérie. Les Fennecs tenants du titre ont été battus hier par la Côte d'Ivoire, 3-1. C'était lors du dernier match du premier tour de la compétition. Le premier ministre français Jean Castex a annoncé l'entrée en vigueur du pass vaccinal au 24 janvier, mais aussi une levée progressive des restrictions en deux étapes. Dès le 2 février, les jauges seront supprimées dans les stades et les lieux de culture. Les enceintes pourront recevoir du public sans restriction. Le port du masque restera obligatoire. En revanche, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur. Le télétravail ne sera plus non plus obligatoire, mais il restera recommandé. À partir du 16 février, les discothèques pourront rouvrir. Il sera possible d'assister à des concerts debout et de consommer dans les bars et cafés debout. C'est un moment important dans la vie des lycéens de terminale. Les futurs bacheliers sont invités depuis hier à formuler leurs vœux d'orientation post-bac sur Parcoursup. Nous y revenons avec Cécile Thévenet, membre du bureau national de la Fédération des associations générales étudiantes. Elle déplore un sous-financement de l'enseignement supérieur. Entretien.
Les élèves de terminale peuvent s'inscrire sur Parcoursup et commencer à sélectionner leurs vœux pour les études supérieures. Et du coup, ils ont jusqu'au 29 mars pour sélectionner leurs vœux. Ensuite, ils pourront du coup faire plus précisément leurs dossiers. Suite à ça, les dossiers seront du coup évalués puis sélectionnés pour pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment un moment qui est très important dans la vie des jeunes, puisque c'est vraiment à ce moment-là que les lycéens pourront choisir leur orientation et vraiment commencer à s'émanciper du domicile familial. Habituellement, on le sait, c'est une procédure qui génère beaucoup de stress, beaucoup de pression pour les lycéens, pour les lycéennes, et d'autant plus avec la crise sanitaire, on l'a vu l'année dernière, mais c'est d'autant plus stressant puisque les épreuves du bac et les cours, ils risquent d'être impactés par la crise sanitaire et du coup, ça génère d'autant plus de stress. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une problématique, c'est que on manque cruellement de place dans l'enseignement supérieur, tout parce que actuellement, on a un sous-financement de l'enseignement supérieur et du coup, forcément, certaines licences doivent être sélectives parce que justement, il n'y a pas assez de place pour toutes celles et ceux qui le voudraient. Et tant qu'on n'aura pas un vrai financement de l'enseignement supérieur et de la recherche à la hauteur des besoins aujourd'hui, ce système-là, il se veut vecteur d'inégalité. Et du coup, face à cette période, on sait que c'est quelque chose de très stressant. On sait qu'il y a de nombreux lycéens, lycéennes qui ont beaucoup de questions. Et du coup, comme chaque année, la FAGE, on a ouvert notre plateforme du coup qui s'appelle sosparcoursup.fr. Et du coup, c'est une plateforme qui vise à accompagner chaque candidat-candidate qui rencontre des difficultés au cours de la procédure, n'importe quelles soient les difficultés. Et du coup, les lycéens, lycéennes peuvent nous contacter. On pourra les accompagner du coup dans cette période qui est parfois un petit peu stressante.
Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a tout récemment proposé une réforme de l'université en la rendant plus professionnalisante et payante. Vous, comment avez-vous accueilli cela au sein de la FAGE?
C'est ça, du coup, sa phrase exacte, c'est « on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants ». Et cette phrase, du coup, elle est présentée comme un constat. Donc c'est pas une annonce, elle est présentée comme un constat, mais pour autant, ces propos, ils remettent en cause la gratuité de l'enseignement supérieur en français. Et pourtant, c'est cette gratuité-là qui est garante de l'égalité des chances dans notre pays, et du coup ça ouvre la parole à une possible augmentation des frais d'inscription. Et ce genre de prise de parole, c'est totalement inacceptable, surtout après avoir vécu une période où des centaines de milliers de jeunes étaient dans des situations d'extrême précarité, à l'heure où on a déjà énormément d'étudiants et d'étudiantes qui chaque année n'arrivent pas à payer leurs frais d'inscription de 170 €, à l'heure où un étudiant sur deux doit travailler pour financer ses études, ce serait complètement inégalitaire et ça favoriserait pas du tout l'égalité des chances. Et depuis toujours, la FAGE, elle milite et elle continuera de militer activement pour un enseignement supérieur qui soit accessible à toutes et à tous et sans condition de moyens, bien évidemment.
Cécile Thévenet, membre du bureau national de la Fédération des associations générales étudiantes. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Patrick Menucci, ancien député socialiste de Marseille, porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, la candidate du PS qui met la question sociale au cœur de son projet, Patrick Menucci.
Sur le SMIC, déjà, c'est la première mesure. Hein. Quand on ouvre le programme, c'est la première mesure. C'est augmenter les salaires. Et pour le SMIC, on a dit 15%, en réalité ça représente 200 euros, donc c'est 200 euros d'augmentation du SMIC. Écoutez, ça c'est une décision de l'État. On aura évidemment des cris du MEDEF sur la compétitivité, on parlera des Allemands, des Espagnols, mais enfin voilà, je veux dire, il faut en finir avec ça. Les travailleurs qui sont maintenant, on les appelle souvent les travailleurs de première ligne, ont parfaitement la légitimité, le droit et la nécessité de gagner plus. Je dirais que c'est ça qui d'ailleurs fait la différence entre nous, des différences importantes entre nous et le président de la République. C'est-à-dire que c'est l'affirmation de la social-démocratie.
Patrick Menucci, porte-parole d'Anne Hidalgo. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le Journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.